Au-dessus de la vie, au-dessus du bonheur, il y a quelque chose de bleu, d'incandescent au grand ciel immuable et subtil, dont les rayonnements qui nous arrivent suffisent à animer des mondes. La splendeur du génie n'est que le reflet pâle du Verbe caché. Mais si ces manifestations nous sont à nous autres impossibles à cause de la faiblesse de nos natures, l'amour, l'inspiration nous y renvoie. Elle nous pousse vers lui, nous y confond, nous y mêle. On peut y vivre. Des peuples entiers n'en sont pas sortis. Il y a des siècles qui ont ainsi poussé dans l'humanité comme des comètes dans l'espace pour écheveler les sublimes. Les grandes passions, je ne dis pas les turbulentes, mais les hautes, les larges, sont celles à qui rien ne peut nuire et dans lesquelles plusieurs autres peuvent se mouvoir. Aucun accident ne peut déranger une harmonie qui comprend en soi tous les cas particuliers. Sans un tel amour, d'autres amours même auraient pu venir. Il eût été tout le cœur. Je crois que le plus grand caractère du génie est avant tout la force. Donc ce que je déteste le plus dans les arts, ce qui me crispe, c'est l'ingénieux, l'esprit. Tout ce qu'on invente est vrai. La poésie est une chose aussi précise que la géométrie. L'induction vaut la déduction. Et puis, arrivé à un certain endroit, on ne se trompe plus quant à tout ce qui est de l'âme. Ma pauvre Bovary sans doute souffre et pleure dans 20 villages de France, à la fois, à cette heure même. Il n'y a pas besoin de gravir les montagnes ou de descendre au fleuve pour puiser de l'eau. Dans un espace grand comme la main, enfoncer la sonde et frapper dessus, y jaillira des fontaines. Le puits artésien est un symbole, et les Chinois, qui l'ont connu de tout temps, sont un grand peuple. Oui, je soutiens, et ceci pour moi doit être un dogme pratique dans la vie d'artiste, qu'il faut faire dans son existence deux parts, vivre en bourgeois et penser en demi-dieu. Les satisfactions du corps et de la tête n'ont rien de commun. S'ils se rencontrent mêlés, prenez-les et gardez-les, mais ne les cherchez pas réunis, car ce serait factice, et cette idée de bonheur du reste est la cause presque exclusive de toutes les infortunes humaines. On s'étonne des mystiques, mais le secret est là. Leur amour, à la manière des torrents, n'avait qu'un seul lit, étroit, profond, en pente. Et c'est pour cela qu'il emportait tout. Si vous voulez à la fois chercher le bonheur et le beau, vous n'atteindrez ni à l'un ni à l'autre, car le second n'arrive que par le sacrifice. L'art, comme le dieu des Juifs, se repaît d'Holocauste. Au reste, toutes les difficultés que l'on éprouve en écrivant viennent du manque d'ordre. C'est une conviction que j'ai maintenant. Si vous vous acharnez à une tournure ou à une expression qui n'arrive pas, c'est que vous n'avez pas l'idée. L'image ou le sentiment bien-être dans la tête amène le mot sur le papier, l'un coule de l'autre. La personnalité sentimentale sera ce qui plus tard fera passer pour puérile et un peu niaise une bonne partie de la littérature contemporaine. Que de sentiments, que de tendresse, que de larmes. Il n'y aura jamais eu de si braves gens. Il faut avoir avant tout du sang dans les phrases et non de la lymphe. Et quand j'ai dit du sang, c'est du cœur. Il faut que ça la batte, que cela palpite, que cela émeuve. Il faut faire s'aimer les arbres et tressaillir les granites. On peut mettre un immense amour dans l'histoire d'un brin d'herbe. La fable des deux pigeons m'a toujours plus ému que tout Lamartine, et ce n'est pas le sujet. Mais si La Fontaine avait dépensé d'abord sa faculté aimante dans l'exposition de ses sentiments personnels, Lui en serait-il resté suffisamment pour peindre l'amitié de deux oiseaux? Prenons garde de dépenser en petite monnaie nos pièces d'or. Il n'y a que les lieux communs, les pays connus, qui soient d'une intarissable beauté. À Paris, le char d'Apollon est un fiacre. La célébrité s'y obtient à force de course. C'est donc quelque chose de bien atrocement délicieux que d'écrire, pour qu'on reste à s'acharner ainsi en des tortures pareilles et qu'on n'en veuille pas d'autres. Il y a là-dessous un mystère qui m'échappe. La vocation est peut-être comme l'amour du pays natal, que j'ai peu du reste, un certain lien fatal des choses aux hommes. Le Sibérien dans ses neiges et le Hottentot dans sa hutte vivent contents, sans rêver soleil ni palais. Quelque chose de plus fort qu'eux les attache à leur misère, et nous nous débattons dans les formes. Poètes, sculpteurs, peintres et musiciens, nous respirons l'existence à travers la phrase, le contour, la couleur ou l'harmonie, et nous trouvons tout cela le plus beau du monde. Rappelons-nous toujours que l'impersonnalité est le signe de la force. Absorbons l'objectif et qu'il circule en nous, qu'il se reproduise au dehors, sans qu'on puisse rien comprendre à cette chimie merveilleuse. Notre cœur ne doit être bon qu'à sentir celui des autres. Soyons des miroirs grossissants de la vérité externe. Toute correction doit être faite avec sens. Il faut bien ruminer son objectif avant de songer à la forme, car elle n'arrive bonne que si l'illusion du sujet nous obsède. Nous vivons dans un monde où l'on s'habille de vêtements tout confectionnés. Donc, tant pis pour vous, si vous êtes trop grand. Un livre, cela vous crée une famille éternelle dans l'humanité. Tous ceux qui vivront de vos pensées, ce sont comme des enfants attablés à votre foyer. Aussi, quelle reconnaissance j'ai, moi, pour ces pauvres vieux braves dont on se bourre à si large gueule, qui semble qu'on a connu et qu'auquel on rêve comme à des amis morts. Quand on ne peut pas entraîner la société derrière soi, on se met à sa remorque, comme les chevaux du roulier lorsqu'il s'agit de descendre une côte. Alors la machine en mouvement vous emporte, c'est un moyen d'avancer. On est servi par les passions du jour et par la sympathie des envieux. C'est là le secret des grands succès, et des petits aussi. L'art ne réclame ni complaisance ni politesse, rien que la foi toujours, et la liberté. Chaque rêve finit par trouver sa forme. Il y a des ondes pour toutes les soifs, de l'amour pour tous les cœurs. Et puis, rien ne fait mieux passer la vie que la préoccupation incessante d'une idée, qu'un idéal, comme disent les grisettes. Folie pour folie, prenons les plus nobles. Puisque nous ne pouvons décrocher le soleil, il faut boucher toutes nos fenêtres et allumer des lustres dans notre chambre. Qui vous dit que votre jugement humain soit infaillible? Que votre sentiment ne vous abuse pas? Comment pouvons-nous, avec nos sens bornés et notre intelligence finie, arriver à la connaissance absolue du vrai et du bien? Saisirons-nous jamais l'absolu? Il faut, si l'on veut vivre, renoncer à avoir une idée nette de quoi que ce soit. L'humanité est ainsi, il ne s'agit pas de la changer, mais de la connaître. Pensez moins à vous. Abandonnez l'espoir d'une solution. Elle est au sein du Père. Lui seul la possède et ne la communique pas. Mais il y a dans l'auteur de l'étude, dans l'ardeur de l'étude, des joies idéales faites pour les nobles âmes. Un livre peut être plein d'énormités et de bévues et n'en être pas moins fort beau. Une pareille doctrine, si elle était admise, serait déplorable, je le sais, en France surtout, où l'on a le pédantisme et l'ignorance, mais je vois dans la tendance contraire, qui est la mienne, hélas, un grand danger. L'étude de l'habit nous fait oublier l'âme. Je donnerai la demi-rame de notes que j'ai écrites depuis 5 mois et les 98 volumes que j'ai lus pour être pendant 3 secondes seulement réellement émotionné par la passion de mes héros. Prenons garde de tomber dans le brimborion. On reviendrait ainsi tout doucement à la cafetière de l'abbé de Lille. Il y a toute une école de peinture maintenant qui, à force d'aimer Pompéi, en est arrivée à faire plus rococo que Girodet. Je crois donc qu'il ne faut rien aimer, c'est-à-dire qu'il faut planer impartialement au-dessus de tous les objectifs. La vie, la mort, la joie et les larmes, tout cela se vaut en définitive. Du haut de la planète de Saturne, notre univers est une petite étincelle. Il faut tâcher, je le sais bien, d'être par l'esprit aussi haut placé que les étoiles. Mais cela n'est pas facile continuellement. Avez-vous remarqué comme nous aimons nos douleurs? Mais nous ne valons peut-être quelque chose que par nos souffrances, car elles sont toutes des aspirations. Il y a tant de gens dont la joie est si immonde et l'idéal si borné que nous devons bénir notre malheur s'il nous fait plus dignes. Le malheur de la vie se passe à dire « il est trop tôt », puis « hop, il est trop tard ». C'est parce que je crois à l'évolution perpétuelle de l'humanité et à ses formes incessantes que je hais tous les cadres où l'on veut fourrer de vive force toutes les formalités dont on la définit, tous les plans que l'on rêve pour elle. La démocratie n'est pas plus son dernier mot que l'esclavage ne l'a été, que la féodalité ne l'a été, que la monarchie ne l'a été. L'horizon perçu par les yeux humains n'est jamais le rivage, parce qu'au-delà de cet horizon, il y en a un autre et toujours. Ainsi, chercher la meilleure des religions ou le meilleur des gouvernements me semble une folie niaise. Le meilleur, pour moi, c'est celui qui agonise, parce qu'il va faire place à un autre. Les gens légers, bornés, les esprits présomptueux et enthousiastes veulent en toute chose une conclusion. Ils cherchent le but de la vie et la dimension de l'infini. Ils prennent dans leurs pauvres petites mains une poignée de sable et ils disent à l'océan « Je vais contempler les grains de tes rivages. » Mais comme les grains leur coulent entre les doigts et que le calcul est long, ils trépignent et ils pleurent. Savez-vous ce qu'il faut faire sur la grève? Il faut s'agenouiller ou se promener. Les mots sublimes que l'on rapporte dans les histoires ont été dits souvent par des simples, ce qui n'est nullement un argument contre l'art, au contraire, car ils avaient ce qui fait l'art même, à savoir la pensée concrétée, un sentiment quelconque, violent, et arriver à son dernier état d'idéal. Si vous aviez la foi, vous remueriez des montagnes, est aussi le principe du beau, ce qui se traduit plus prosaïquement. Si vous saviez précisément ce que vous voulez dire, vous le diriez bien. Aussi n'est-il pas très difficile de parler de soi, mais des autres. Notre âme est une bête féroce, toujours affamée, il faut la gorger jusqu'à la gueule pour qu'elle ne se jette pas sur nous. Rien n'apaise plus qu'un long travail. L'érudition est chose rafraîchissante. Combien je regrette souvent de n'être pas un savant, et comme j'envie ces calmes existences passées à étudier des pattes de mouche, des étoiles ou des fleurs. Quand une fois on a baisé un cadavre au front, Il vous en reste toujours sur les lèvres quelque chose, une amertume infinie, un arrière-goût du néant que rien n'efface. Comme nous souffrons par nos affections, il n'est pas d'amour qui ne soit parfois aussi lourd à porter qu'une haine. Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. Le vin de l'art cause une longue ivresse et il est inépuisable. C'est le penser à soi qui rend malheureux. Le style est autant sous les mots que dans les mots. C'est autant l'âme que la chair d'une œuvre. Et d'ailleurs, je ne sais, et personne ne sait, ce que veulent dire ces deux mots, âme et corps, où l'une finit ou l'autre commence. Nous sentons des forces, et puis c'est tout. Le matérialisme et le spiritualisme pèsent encore trop sur la conscience de l'homme pour que l'on étudie impartialement tous ces phénomènes. L'anatomie du cœur humain n'est pas encore faite. Comment voulez-vous qu'on le guérisse? Ce sera l'unique gloire du XIXe siècle que d'avoir commencé ces études. Le sens historique est tout nouveau dans ce monde. On va se mettre à étudier les idées comme des faits et à disséquer les croyances comme des organismes. Il y a là toute une école qui travaille dans l'ombre et qui fera quelque chose, j'en suis sûr. Comme nous nous attachons aux choses. C'est surtout quand on voyage que l'on sent profondément la mélancolie de la nature, qui n'est que celle de notre âme projetée sur les objets. Il m'est arrivé d'avoir des larmes aux yeux en quittant tel paysage. Pourquoi? L'envie du succès, le besoin de réussir quand même à cause du profit, a tellement démoralisé la littérature qu'on devient stupide de timidité. L'idée d'une chute ou d'un blâme les fait tous foirer de peur dans leurs culottes. Cela vous est bien commode à dire, vous, parce que vous avez des rentes, réponse commode, et qui relègue la moralité parmi les choses de luxe. Tout ce qui touche une plume doit avoir trop de reconnaissance à Hugo pour se permettre une critique. Mais je trouve intérieurement que les dieux vieillissent. Un bon sujet de roman est celui qui vient tout d'une pièce, d'un seul jet. C'est une idée mère d'où toutes les autres découlent. On n'est pas du tout libre d'écrire telle ou telle chose. On ne choisit pas son sujet. Voilà ce que le public et les critiques ne comprennent pas. Le secret des chefs-d'œuvre est là, dans la concordance du sujet et du tempérament de l'auteur. Expliquer le mal par le péché originel, c'est ne rien expliquer du tout. La recherche de la cause est anti-philosophique, anti-scientifique, et les religions en cela me déplaisent encore plus que les philosophies, puisqu'elles affirment la connaître. Que ce soit d'un besoin du cœur, d'accord, c'est ce besoin-là qui est respectable, et non des dogmes éphémères. La rage de vouloir conclure est une des manies les plus funestes et les plus stériles qui appartiennent à l'humanité. Chaque religion et chaque philosophie a prétendu avoir Dieu à elle, toiser l'infini et connaître la recette du bonheur. Quel orgueil! Et quel néant! Je vois au contraire que les plus grands génies et les plus grandes œuvres n'ont jamais conclu. Homère, Shakespeare, Goethe, tous les fils aînés de Dieu, comme dit Michelet, se sont bien gardés de faire autre chose que représenter. Nous voulons escalader le ciel, eh bien, élargissons d'abord notre esprit et notre cœur. Hommes d'aspiration céleste, nous sommes tous enfoncés dans les fanges de la terre jusqu'au cou. La barbarie du Moyen-Âge nous étreint encore par mille préjugés et mille coutumes. Je viens d'avaler la Lamennais, Saint-Simon, Fourier, et je reprends Proudhon d'un bout à l'autre. Si on veut ne rien connaître de tous ces gens-là, c'est de lire les critiques et les résumés faits sur eux, car on les a toujours réfutés ou exaltés, mais jamais exposés. Il y a une chose saillante et qui les lie tous, c'est la haine de la liberté, la haine de la Révolution française et de la philosophie. Ce sont tous des bons hommes du Moyen-Âge, esprit enfoncé dans le passé. Et quel cuistre, quel pion! Des séminaristes en goguette ou des caissiers en délire? S'ils n'ont pas réussi en 48, c'est qu'ils étaient en dehors du grand courant traditionnel. Le socialisme est une phase du passé, comme le jésuitisme de l'autre. Le grand maître de Saint-Simon était M. de Maistre, et on n'a pas dit tout ce que Proudhon et Louis Blanc ont pris à Lamennais. L'école de Lyon, qui a été la plus active et toute mystique à la façon des Lollards. Les bourgeois n'ont rien compris à tout cela. On a senti instinctivement ce qui fait le fond de toutes ces utopies sociales, la tyrannie, l'antinature, la mort de l'âme. On fausse toujours la réalité quand on veut l'amener à une conclusion qui n'appartient qu'à Dieu seul. Quand on a pris un livre, il faut l'avaler d'un seul coup. C'est le seul moyen de voir l'ensemble et d'en tirer profit. Accoutume-toi à poursuivre une idée. Puisque tu es mon élève, je ne veux pas que tu aies ce décousu dans les pensées, ce peu d'esprit de suite qui est l'apanage des personnes de ton sexe. La vie doit être une éducation incessante, il faut tout apprendre, depuis parler jusqu'à mourir. Et bien que j'aie de grands besoins, dont je ne dis mot, je me ferais plutôt pion dans un collège que d'écrire 4 lignes pour de l'argent. J'aurais pu être riche, j'ai tout envoyé faire foutre, et je reste comme un bédouin dans mon désert et dans ma noblesse. Les plus forts y ont péri. L'art est un luxe. Il veut des mains blanches et calmes. On fait d'abord une petite concession, puis 2, puis 20. On s'illusionne sur sa moralité pendant longtemps. Puis on s'en fout complètement et puis on devient imbécile, tout à fait ou approchant. L'artiste doit être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant, qu'on le sente partout, mais qu'on ne le voit pas. Et puis l'art doit s'élever au-dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses. Il est temps de lui donner, par une méthode impitoyable, la précision des sciences physiques. Les hommes trouveront toujours que la chose la plus sérieuse de leur existence, c'est jouir. La femme, pour nous tous, est l'ogive de l'infini. Cela n'est pas noble, mais tel est le vrai fond du mal. Bien des choses s'expliqueraient si nous pouvions connaître notre généalogie véritable, car les éléments qui font un homme étant bornés, les mêmes combinaisons doivent se reproduire. Ainsi, l'hérédité est un principe juste qui a été mal appliqué. Les sciences psychologiques resteront où elles gisent, c'est-à-dire dans les ténèbres et la folie, tant qu'elles n'auront pas une nomenclature exacte et qu'il sera permis d'employer la même expression pour signifier les idées les plus diverses. Les grandes natures, qui sont les bonnes, sont avant tout prodigues et n'y regardent pas de si près à se dépenser. Il faut rire et pleurer, aimer, travailler, jouir et souffrir, enfin vibrer autant que possible dans toute son étendue. Voilà, je crois, le vrai humain. Bien que je sois dans le troupeau de ses petits-fils, cet homme, Jean-Jacques Rousseau, me déplaît. Je crois qu'il a eu une influence funeste. C'est le générateur de la démocratie envieuse et tyrannique. Les brumes de sa mélancolie ont obscurci dans les cerveaux français l'idée du droit. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. Imaginez un homme qui, avec des balances de 1000 coudées, voudrait peser le sable de la mer. Quand il aurait rempli ses 2 plateaux, il déborderait et son travail ne serait pas plus avancé qu'au commencement. Toutes les philosophies en sont là. Elles ont beau dire, il y a un poids, cependant, il y a un certain chiffre qu'il faut savoir, essayons. On élargit les balances, la corde casse et toujours, ainsi toujours. Le but, la cause, mais nous serions Dieu si nous tenions la cause, et à mesure que nous irons, elle se reculera indéfiniment, parce que notre horizon s'élargira. Plus les télescopes seront parfaits, plus les étoiles seront nombreuses. Nous sommes condamnés à rouler dans les ténèbres et dans les larmes. Tout dépend de la valeur que nous donnons aux choses. C'est nous qui faisons la moralité et la vertu. Le cannibale qui mange son semblable est aussi innocent que l'enfant qui suce son sucre d'orge. Le roman, selon moi, doit être scientifique, c'est-à-dire rester dans les généralités probables. On est idéal qu'à la condition d'être réel et on est vrai qu'à force de généraliser. Tout le progrès qu'on peut espérer, c'est de rendre la brute un peu moins méchante. Mais quant à hausser les idées de la masse, à lui donner une conception de Dieu plus large et partant moins humaine, j'en doute, oui, j'en doute. Je ne veux avoir ni amour, ni haine, ni pitié, ni colère. Oh, quant à la sympathie, c'est différent, jamais on en a assez. La muse, si revêche qu'elle soit, donne moins de chagrin que la femme. Je ne peux accorder l'une avec l'autre. Il faut opter. Mon choix est fait depuis longtemps. Les hommes purement intellectuels ont rendu plus de services au genre humain que tous les saints Vincent de Paul du monde. Et la politique sera une éternelle niaiserie tant qu'elle ne sera pas une dépendance de la science. On se paie de mots dans cette question de l'immortalité, car la question est de savoir si le moi persiste. L'affirmative me paraît une outrecuidance de notre orgueil, une protestation de notre faiblesse contre l'ordre éternel. La mort n'a peut-être pas plus de secrets à nous révéler que la vie. Ce ne sont pas en effet les grands malheurs qui sont à craindre dans la vie, mais les petits. J'ai plus peur de piqûres d'épingle que de coups de sabre. De même, on n'a pas besoin à toute heure de dévouement et de sacrifice, mais il nous faut toujours de la part d'autrui des semblants d'amitié et d'affection, des attentions et des manières. Le paysan, qui est plat comme une punaise par amour de son bien, se transforme en bête féroce dès qu'il a perdu sa vache. Tout homme, selon moi, si infime qu'il soit, a droit à une voix, la sienne, mais n'est pas l'égal de son voisin, lequel peut le valoir 100 fois. Dans une entreprise, société anonyme, chaque actionnaire vote en raison de son apport. Il en devrait être ainsi dans le gouvernement d'une nation. Je vaux bien 20 électeurs de Croisset. L'argent, l'esprit et la race même doivent être comptés, bref, toutes les forces. Or, jusqu'à présent, je n'en vois qu'une, le nombre. La masse, le nombre est toujours idiot. Oh, je n'ai pas beaucoup de convictions, mais j'ai celle-là fortement. Cependant, il faut respecter la masse, si inepte qu'elle soit, parce qu'elle contient des germes d'une fécondité incalculable. Donnez-lui la liberté, mais non le pouvoir. Nous ne souffrons que d'une chose, la bêtise, mais elle est formidable et universelle. Quand on parle de l'abrutissement de la plèbe, on dit une chose injuste, incomplète. Conclusion, il faut éclairer les classes éclairées. Commencer par la tête, c'est ce qui est le plus malade, le reste suivra. Quand tout le monde pourra lire le Petit Journal et le Figaro, on ne lira pas autre chose, puisque le bourgeois, le monsieur riche, ne lit rien de plus. La presse est une école d'abrutissement, parce qu'elle dispense de penser. Le premier remède serait d'en finir avec le suffrage universel, la honte de l'esprit humain. Pour que la France se relève, il faut qu'elle passe de l'inspiration à la science, qu'elle abandonne toute métaphysique, qu'elle entre dans la critique, c'est-à-dire dans l'examen des choses. Je crois que la foule, le troupeau, sera toujours haïssable. Il n'y a d'important qu'un petit groupe d'esprits, toujours les mêmes, et qui se repassent le flambeau. Tant qu'on ne s'inclinera pas devant les mandarins, tant que l'Académie des sciences ne sera pas le remplaçant du pape, la politique tout entière et la société, jusque dans ses racines, ne sera qu'un ramassis de blagues écœurantes. Le peuple est un éternel mineur et il sera toujours, dans la hiérarchie des éléments sociaux, au dernier rang, puisqu'il est le nombre, la masse, l'illimité. Je hais la démocratie, celle du moins qu'on entend en France, c'est-à-dire l'exaltation de la grâce au détriment de la justice, la négation du droit, en un mot, l'antisociabilité. Les ouvriers de luxe sont inutiles dans la société où la plèbe domine. Nous périssons par l'indulgence, par la clémence, par la vacherie, et j'en reviens à mon ternel refrain, par le manque de justice. La méthode est tout ce qu'il y a de plus haut dans la critique, puisqu'elle donne le moyen de créer. Je me suis remis à travailler, car l'existence n'est tolérable que si on oublie sa misérable personne. Le principal en ce monde est de tenir son âme dans une région haute, loin des fanges bourgeoises et démocratiques. Le culte de l'art donne de l'orgueil. On n'en a jamais trop. Telle est ma morale. On devrait faire de l'art exclusivement pour soi. On n'en aurait que les jouissances. Mais dès qu'on veut faire sortir son œuvre du silence du cabinet, on souffre trop, surtout quand on est, comme moi, un véritable écorché. Le moindre contact me déchire. Je suis plus que jamais irascible, intolérant, insociable, exagéré, Saint-Polycarpien. La légitimité n'est pas plus viable que la commune. Ce sont deux âneries historiques. La première qualité pour voir est de posséder de bons yeux. Or, s'ils sont troublés par les passions, c'est-à-dire par un intérêt personnel, les choses vous échappent. Un bon cœur donne tant d'esprit. Quand on réfléchit un peu sérieusement, on est tenté de se casser la gueule. C'est pourquoi il faut agir. Le livre qu'on lit a beau être bête, il importe de le finir. Celui qu'on entreprend peut être idiot, n'importe, écrivons-le. La fin de Candide, cultivons notre jardin, est la plus grande leçon de morale qui existe. On n'arrange pas sa destinée, on la subit. Quand on devient vieux, les habitudes sont une tyrannie. Tout ce qui s'en va, tout ce que l'on quitte a le caractère de l'irrévocable, et on sent la mort marcher sur vous. Si à la ruine intérieure que l'on sent très bien, des ruines du dehors s'ajoutent, on est tout simplement écrasé. Dans l'idéal que j'ai de l'art, je crois qu'on ne doit rien montrer de ses convictions et que l'artiste ne doit pas apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. L'homme n'est rien, l'œuvre tout. Autant que possible, il ne faut jamais rêver qu'un objet en dehors de nous, autrement, on tombe dans l'océan de tristesse. La table d'hôte, la cloche et tout le reste, cette vie de bestiaux qu'on mène ensemble à quelque chose qui nous ravale, c'est le rêve moderne, démocratie, égalité. Les morts sont plus agréables que les trois quarts des vivants. Les souvenirs de cette nature sont pleins de douceur quand on a passé par les grandes amertumes. Quand je découvre une mauvaise assonance ou une répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans le faux. À force de chercher, je trouve l'expression juste qui était la seule et qui est en même temps l'harmonieuse. Le mot ne manque jamais quand on possède l'idée. Si le lecteur ne tire pas d'un livre la moralité qui doit s'y trouver, c'est que le lecteur est un imbécile ou que le livre est faux au point de vue de l'exactitude. Car du moment qu'une chose est vraie, elle est bonne. Les livres obscènes ne sont même immoraux que parce qu'ils manquent de vérité. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Le succès est une conséquence et ne doit pas être un but. S'écarter des journaux, la haine de ces boutiques-là est le commencement de l'amour du beau. Elles sont par essence hostiles à toute personnalité, un peu au-dessus des autres. L'originalité, sous quelque forme qu'elle se montre, les exaspère. Dans la jeunesse, on est vert et dur, on s'attendrit plus tard, et l'enfant, on arrive à être blette comme une poire des doigts. Tous les procès de presse, tous les empêchements à la pensée me stupéfient par leur profonde inutilité. L'expérience est là pour prouver que jamais ils n'ont servi à rien. N'importe, on ne s'en lasse pas. La sottise naturelle est au pouvoir. Je vais frénétiquement ces idiots qui veulent écraser la muse sous les talons de leurs bottes. D'un revers de sa plume, elle leur casse la gueule et remonte au ciel. Mais ce crime-là, qui est la négation du Saint-Esprit, est le plus grand des crimes et peut-être le seul crime. Voici un verset d'Isaïe que je me répète sans cesse et qui m'obsède tant je le trouve sublime. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui apporte de bonnes nouvelles. Creuse-moi ça, songe-y, quel horizon, quelle bouffée de vent dans la poitrine. Tout pour les dames, ça se dit, mais l'art avant tout, ça se pratique. L'histoire des arts n'est qu'un martyrologe. Tout ce qui est escarpé et plein de précipices, tant mieux, moins de gens peuvent y atteindre. Voilà la vraie immoralité, l'ignorance et la bêtise. Le diable n'est pas autre chose, il se nomme Légion. Du moment que vous vous élevez, on, oh, l'éternel et exécrable on, vous rabaisse. C'est pour cela que l'autorité est haïssable essentiellement. Je demande ce qu'elle a jamais fait de bien dans le monde. Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit. Sans le caractère, les œuvres d'art, quoi qu'on fasse, seront toujours médiocres. L'honnêteté est la première condition de l'esthétique. Ce qui nous manque, ce sont les principes. On a beau dire, il en faut, reste à savoir lesquels. Pour un artiste, il n'y en a qu'un, tout sacrifié à l'art. La vie doit être considérée par lui comme un moyen, rien de plus. Et la première personne dont il doit se foutre, c'est de lui-même. Et puis, ceux qu'on croit ne plus aimer, on les aime encore. Rien ne s'éteint complètement. Après le feu, la fumée, qui dure plus longtemps que lui. Le succès matériel ne doit être qu'un résultat et jamais un but. Autrement, on perd la boule, on n'a même plus le sens pratique. Faisons bien, puis advienne que pourra. Il ne faut plaindre la mort que des heureux, c'est-à-dire celle de fort peu de gens. Le mépris de la gloriole et du grain est la première marche pour atteindre au beau, la morale n'étant qu'une partie de l'esthétique, mais sa condition foncière. Les honneurs déshonorent, le titre dégrade, la fonction abrutit. La vraie force est l'exagération de la souplesse. L'artiste doit contenir un saltimbanque. Il n'y a de bête en fait d'art que, premièrement, le gouvernement, deuxièmement, les directeurs de théâtre, troisièmement, les éditeurs, quatrièmement, les rédacteurs en chef des journaux, cinquièmement, les critiques autorisés. Enfin, tout ce qui détient le pouvoir, parce que le pouvoir est essentiellement stupide. Depuis que la terre tourne, le bien et le beau ont été en dehors de lui. Quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis. Premièrement, le public, parce que le style le contraint à penser et l'oblige à un travail. Deuxièmement, le gouvernement, parce qu'il sent en nous une force et que le pouvoir n'aime pas un autre pouvoir. Les gouvernements ont beau changer, monarchie, empire ou république, peu importe. L'esthétique ne change pas. De par la vertu de leur place, les agents, administrateurs et magistrats ont le monopole du goût. La réalité ne se plie point à l'idéal, mais le confirme. La somme de félicité départie à chacun de nous est mince, et quand nous en avons dépensé quelque peu, nous sommes tout moroses. La bonne et la mauvaise société doivent être étudiées, la vérité est dans tout, comprenant chaque chose et n'en blâmant aucune. C'est le moyen de savoir beaucoup et d'être calme. Et c'est quelque chose que d'être calme. C'est presque être heureux. La contemplation des belles choses rend toujours triste pour un certain temps. On dirait que nous ne sommes faits que pour supporter une certaine dose de beau. Un peu plus nous fatigue. Voilà pourquoi les nations médiocres préfèrent la vue d'un fleuve à celle de l'océan. Et pourquoi il y a tant de gens qui proclament Béranger, le premier poète français? Ne me parlez pas des temps modernes en fait de grandiose. Il n'y a pas de quoi satisfaire l'imagination d'un feuilletoniste de dernier ordre. Il n'y a pour moi dans le monde que les beaux vers, les phrases bien tournées, harmonieuses, chantantes, les beaux couchers de soleil, les clairs de lune, les tableaux colorés, les marbres antiques et les têtes accentuées. Au-delà, rien. L'obligation où l'on est de vivre sur un coin de terre marqué en rouge ou en bleu sur la carte et de détester les autres, coin en vert ou en noir, m'a paru toujours étroite, bornée et d'une stupidité finie. Le cynisme est une merveilleuse chose en cela qu'étant la charge du vice, il en est en même temps le correctif et l'annihilation. Les femmes ne comprennent pas qu'on puisse aimer à des degrés différents. Elles parlent beaucoup de l'âme, mais le corps leur tient fort au cœur, car elles voient tout l'amour mis en jeu dans l'acte du corps. On peut adorer une femme et aller chaque soir chez les filles. Il faut que chaque œuvre maintenant ait sa signification morale, son enseignement gradué. Il faut donner une portée philosophique à un sonnet, qu'un drame tape sur les doigts au monarque et qu'une aquarelle adoucisse les mœurs. La vocasserie se glisse partout, la rage de discourir, de pérorer, de plaider. La muse devient le piédestal de mille convoitises. Les beaux fragments ne font rien. L'unité, tout est là. L'ensemble, voilà ce qui manque à tous ceux d'aujourd'hui, aux grands comme aux petits. 1000 beaux endroits, mais pas une œuvre. Oh, je me fais fort de soutenir dans une thèse qu'il n'y a pas une critique de bonne depuis qu'on en fait, que ça ne sert à rien qu'à embêter les autres et à abrutir le public. On fait de la critique quand on ne peut pas faire de l'art, de même qu'on se met mouchard quand on ne peut pas être soldat. Quand on observe avec un peu d'attention la vie, on y voit les cèdres moins hauts et les roseaux plus grands. Nier l'existence des sentiments tristes parce qu'ils sont tristes, c'est nier le soleil tant qu'il n'est pas midi. Il faut se méfier de tout ce qui ressemble à de l'inspiration et qui n'est souvent que du parti pris et une exaltation factice que l'on s'est donnée volontairement et qui n'est pas venue d'elle-même. D'ailleurs, on ne vit pas dans l'inspiration. Pégase marche plus souvent qu'il ne galope. Tout le talent est de savoir lui faire prendre les allures qu'on veut. Comme si nous n'avions pas assez de notre passé, nous remâchons celui de l'humanité entière et nous nous délectons dans cette amertume voluptueuse. Qu'importe après tout, s'il n'y a là que là qu'on puisse vivre, s'il n'y a qu'à cela qu'on puisse penser sans dédain et sans pitié. La patrie est peut-être comme la famille, on en sent bien le prix que lorsqu'on n'en a plus. À mesure que je me détache des artistes, je m'enthousiasme davantage pour l'art. La mer paraît immense vue du rivage. Montez sur le sommet des montagnes, la voilà plus grande encore. Embarquez-vous dessus, tout disparaît, des flots. Le génie n'est pas rare maintenant, mais ce que personne n'a plus et ce qu'il faut tâcher d'avoir, c'est la conscience. Ce qui nous manque à tous, ce n'est pas le style ni cette flexibilité de l'archet et les doigts désignés sous le nom de talent. Nous avons un orchestre nombreux, une palette riche, des ressources variées. En fait de ruses et de ficelles, nous en savons beaucoup plus qu'on n'en a peut-être jamais su. Non, ce qui nous manque, c'est le principe intrinsèque. C'est l'âme de la chose, l'idée même du sujet. Nous prenons des notes, nous faisons des voyages. Misère, misère. Nous devenons savants, archéologues, historiens, médecins, niafeux, genre de goût. Mais qu'est-ce que tout ça y fait? Mais le cœur, la verve, d'où partir et où aller? Ce qui nous manque, c'est l'audace. À force de scrupules, nous ressemblons à ces pauvres dévots qui ne vivent pas de peur de l'enfer et qui réveillent leur confesseur de grand matin pour s'accuser d'avoir eu la nuit des rêves amoureux. Ne nous inquiétons pas tant du résultat. Aimons, aimons, qu'importe l'enfant dont accouchera la muse. Le plus pur plaisir n'est-il pas dans ses baisers? Exhumer dans ce qu'on rejetait comme hors d'usage des trésors nouveaux de plastique et de sentiments, Découvrir dans l'univers de l'amour un sentiment nouveau et appeler à son exploitation des milliers d'êtres qui s'en trouvaient rejetés, cela n'est-il pas spirituel et sublime? Je porte une haine aiguë et perpétuelle à quiconque taille un arbre pour l'embellir, châtre un cheval pour l'affaiblir, à tous ceux qui coupent les oreilles ou la queue des chiens, à tous ceux qui font des pans avec des ifs, des sphères et des pyramides avec du buis, à tous ceux qui restaurent, badigeonnent, corrigent, aux éditeurs d'expurgata, aux chastes violeurs de nudité profane, aux arrangeurs d'abrégés et de raccourcis, à tous ceux qui rasent quoi que ce soit pour lui mettre une perruque et qui, féroces dans leur pédantisme, impitoyables dans leur ineptie, s'en vont amputant la nature, ce bel art du bon Dieu, et crachant sur l'art, cette autre nature que l'homme porte en lui, comme Jéhovah porte l'autre, et qui est la cadette ou peut-être l'aînée. Ne croyez pas les mains sans gants plus robustes que les autres. On peut être las de tout sans rien connaître, fatigué de traîner sa casaque sans avoir lu Werther ni René, et il n'y a pas besoin d'être reçu bachelier pour se brûler la cervelle. Oh, que la forme humaine est belle quand elle apparaît dans sa liberté native, telle qu'elle fut créée au premier jour du monde. Le cœur, comme l'estomac, veut des nourritures variées. Ce qu'on demande aujourd'hui, n'est-ce pas plutôt tout le contraire du nu, du simple et du vrai? Fortune et succès à ceux qui savent revêtir et habiller les choses. Le tailleur est le roi du siècle. La feuille de vigne en est le symbole. Loi, art, politique, caleçon partout. Liberté menteuse, meubles plaqués, peinture à la détrempe, le public aime ça. Donnez-lui-en, fourrez-lui-en, gorgez cet imbécile. Ce n'est pas de sacrifice que le cœur a faim, mais de confidence. Il me semble que Michel-Ange est quelque chose d'inouï, comme serait un Homère shakespearien, un mélange d'antique et de Moyen-Âge, je ne sais quoi. Dans les confidences les plus intimes, il y a toujours quelque chose que l'on ne dit pas. Dieu sait le commencement et la fin de l'homme. Le milieu, l'art, comme lui dans l'espace, doit rester suspendu dans l'infini, complet en lui-même, indépendant de son producteur. Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède, et pour garder sa conscience pure, la mettre au-dessus de celle de tous les autres. Le moyen de vivre avec sérénité au grand air, c'est de se fixer sur une pyramide quelconque, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit élevée et la base solide. Ah, ce n'est pas toujours amusant. Et l'on est tout seul, mais on se console en crachant d'en haut. Il n'est pas de sottise ni de vice qui ne trouve son compte et ses rêves. Je trouve que l'homme maintenant est plus fanatique que jamais, mais de lui. Il ne chante autre chose, et dans cette pensée qui saute par-dessus les soleils, dévore l'espace, et elle, après l'infini, comme dirait Montaigne, il ne trouve rien de plus grand que cette misère même de la vie dont elle tâche sans cesse de se dégager. Je défie aucun dramaturge d'avoir l'audace de mettre en scène sur le boulevard un ouvrier voleur. Non. Là, il faut que l'ouvrier soit honnête homme, tandis que le monsieur est toujours un gredin. De même qu'au français, la jeune fille est pure, car les mamans y conduisent leurs demoiselles. L'orgueil est une bête féroce qui vit dans les cavernes et dans les déserts, La vanité, au contraire, comme un perroquet, saute de branche en branche et bavarde en pleine lumière. Il y a de par le monde une conjuration géniale et permanente contre deux choses, à savoir la poésie et la liberté. Les gens de goût se chargent d'exterminer l'une, comme les gens d'ordre de poursuivre l'autre. Si la littérature moderne était seulement morale, elle deviendrait forte. Avec de la moralité disparaîtrait le plagiat, le pastiche, l'ignorance, les prétentions exorbitantes. La critique serait utile et l'art naïf, puisque ce serait alors un besoin et non une spéculation. Je suis sûr d'ailleurs que les hommes ne sont pas plus frères, que les feuilles des bois ne sont pareilles. Elles se tourmentent ensemble, voilà tout. Ne sommes-nous pas faits avec les émanations de l'univers? Nos passions sont comme les volcans. Elles grondent toujours, mais l'éruption n'est qu'intermittente. L'humanité nous hait, nous ne la servons pas et nous la haïssons, car elle nous blesse. Aimons-nous donc en l'art, comme les mystiques s'aiment en Dieu, et que tout pâtisse devant cet amour. Que toutes les autres chandelles de la vie disparaissent devant ce grand soleil. La passion s'arrange mal de cette longue patience que demande le métier. L'art est assez vaste pour occuper tout un homme. En distraire quelque chose est presque un crime. C'est un vol fait à l'idée, un manque au devoir. Écrivains que nous sommes et toujours courbés sur l'art, nous n'avons guère avec la nature que des communications imaginatives. Il faut quelquefois regarder la lune ou le soleil en face. La sève des arbres nous entre au cœur par les longs regards stupides que l'on tient sur eux. Comme les moutons qui broutent du thym parmi les prés ont ensuite la chair plus savoureuse, quelque chose des saveurs de la nature doit pénétrer notre esprit s'il s'est bien roulé sur elle. Il n'y a qu'un beau, c'est le même partout, mais il a des aspects différents. Il est plus ou moins coloré par les reflets qui le dominent. Les hautes idées poussent à l'ombre et au bord des précipices comme les sapins. Quand on aura pendant quelque temps traité l'âme humaine avec l'impartialité que l'on met dans les sciences physiques à étudier la matière, on aura fait un pas immense. C'est le seul moyen à l'humanité de se mettre un peu au-dessus d'elle-même. Elle se considérera alors franchement, purement, dans le miroir de ses œuvres. Elle sera comme Dieu, elle se jugera d'en haut. L'industrialisme a développé le lait dans des proportions gigantesques. Combien de braves gens qui, il y a un siècle, eussent parfaitement vécu sans beaux-arts et à qui il faut maintenant de petites statuettes, de petites musiques et de petites littératures. Ce ne sont pas les Napolitains qui entendent la couleur, mais les Hollandais et les Vénitiens. Comme ils étaient toujours dans le brouillard, ils ont aimé le soleil. Le rêve du socialisme, n'est-ce pas de pouvoir faire asseoir l'humanité monstrueuse d'obésité dans une niche toute peinte de jaune comme dans les gares de chemin de fer, et qu'elle soit là à se dandiner sur son siège, ivre béate, les yeux clos, digérant son déjeuner, attendant le dîner et faisant sous elle. Une réaction terrible se fait dans la conscience moderne contre ce qu'on appelle l'amour. Elle a commencé par des rugissements d'ironie, Byron, etc. Et le siècle tout entier regarde à la loupe et dissèque sur sa table la petite fleur du sentiment qui sentait si bon, jadis. Il faut toujours espérer quand on désespère et douter quand on espère. Lisez les grands maîtres en tâchant de saisir leurs procédés, de vous rapprocher de leur âme, et vous sortirez de cette étude avec des éblouissements qui vous rendront joyeux. Vous serez comme Moïse en descendant du Sinaï. Il avait des rayons autour de la face pour avoir contemplé Dieu. Je parie que dans 50 ans seulement, les mots « problème social »,« moralisation des masses », Progrès et démocratie seront passés à l'état de rengaine et apparaîtront aussi grotesques que ceux de sensibilité, nature, préjugés, doux liens du cœur, si fort à la mode vers la fin du XVIIIe siècle. Il faut, quand on veut faire de l'art, se mettre au-dessus de tous les éloges et de toutes les critiques. Quand on a un idéal net, on tâche d'y monter en droite ligne, sans regarder ce qui se trouve en route. Le principal en ce monde est de tenir son âme dans une région haute, loin des fanges bourgeoises et démocratiques. Le culte de l'art donne de l'orgueil, on n'en a jamais trop. Il n'y a rien de plus mélancolique que les beaux soirs d'été. Les forces de la nature éternelle nous font mieux sentir le néant de notre pauvre individualité. Les guerres de race vont peut-être recommencer. On verra avant un siècle plusieurs milliers d'hommes s'entretuer en une séance. Peut-être aussi la Prusse va-t-elle recevoir une forte raclée qui entrait dans les desseins de la Providence pour établir l'équilibre européen. Ce pays-là tendait à s'hypertrophier, comme la France l'a fait sous Louis XIV et Napoléon. Les autres organes s'en trouvent gênés, de là un trouble universel. Des saignées formidables seraient-elles utiles? Les armées de Napoléon Ier ont commis des horreurs, sans doute, mais ce qui les composait, c'était la partie inférieure du peuple français. Tandis que dans l'armée de Guillaume, c'est tout le peuple allemand qui est le coupable. Quelle barbarie, quelle reculade! Ces officiers qui cassent des glaces en gants blancs, qui savent le sanskrit et qui se ruent sur le champagne, qui vous volent votre montre et vous envoient ensuite leur carte de visite, cette guerre pour de l'argent, ces civilisés sauvages, me font plus horreur que les cannibales. Toute gentillesse, comme eût dit Montaigne, est perdue pour longtemps. Un monde va commencer. On élèvera les enfants dans la haine des Prussiens.